Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulhien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, seconde partie du reportage consacré à la troisième édition de la foire Exporest en Valois. Elle avait eu lieu dans la commune de Villers-Cotterêts dans l'Aisne le samedi 3 juin, événement organisé par la communauté de communes Rest en Valois. On débute le reportage avec Didier Casmiche. Il est président de l'association des producteurs du haricot de Soissons.
Bonjour.
Alors le haricot de Soissons, c'est vraiment un produit de tradition et de qualité, et ça depuis près de 200 ans.
Oui, en fait, le haricot de Soissons, il a été, le haricot a été introduit dans la région de Soissons au XVIIIe siècle environ. C'est un gros haricot, en fait, c'est un haricot d'Espagne. C'est le plus gros haricot qu'on puisse trouver, en fait, sur le marché français. Donc, traditionnellement, il était cultivé dans différentes aires géographiques du département, notamment sur la vallée de l'Ailette, et avec des heures fastes, comme la fin du XIXe ou entre deux guerres, où il était chargé en gare de Soissons pour alimenter Paris sur des gros tonnages, d'où le nom de haricot de Soissons, parce que les Parisiens, en fait, le voyant arriver de la gare de Soissons, l'ont appelé haricot de Soissons. Il aurait été chargé à Laon, il se serait appelé le haricot de Laon. Voilà. Et en fait, ce haricot, il était tombé un petit peu en désuétude. Et en 2000, en fait, il y a un groupe d'agriculteurs avec la confrérie du haricot de Soissons et la chambre d'agriculture de l'Aisne qui ont tenter de relancer ou tester les planteurs, les agriculteurs pour relancer la culture. Donc ça a fonctionné et en fait la culture a été remise en place dans les années 2000 en fait, avec quelques pionniers. Et très rapidement, il y a eu la volonté d'introduire la culture dans un cycle de qualité. Dès 2003, en fait, on a introduit l'idée de labellisation de notre haricot, un label qui vient d'aboutir hier matin à l'Europe, puisque notre IGP vient d'être enregistré donc vendredi 2 janvier à l'Europe. Voilà. C'est une grande nouvelle.
Alors, IGP, on précise, indication géographique protégée.
Oui, en fait, l'IGP, on a un cahier des charges sur la conduite de la culture et on a surtout un cahier des charges sur l'aire géographique de production. Donc, ce qui veut dire que maintenant, ne pourront s'appeler haricots de Soissons sur le marché que des haricots qui sont produits dans cette aire qui a été définie dans notre cahier des charges. Voilà.
Avant, elle n'était pas.
Non, absolument pas. Donc, ce qui fait que vous pouviez avoir des haricots venant d'Italie, venant de Pologne, qu'on pouvait appeler haricots de Soissons. Alors que maintenant, on va avoir les outils juridiques pour pouvoir pallier en fait à ce genre de défaut.
Parlons du haricot. Pouvez-vous un petit peu préciser aux auditeurs son goût assez délicat ?
Alors, on le disait, donc c'est un gros haricot, c'est le plus gros haricot, couleur ivoire. Et en fait, c'est un haricot qui a la particularité d'être fondant en bouche, avec peut-être, alors, en fonction des personnes et des goûts, avec peut-être un petit goût de noisette. Hein, donc, fondant en bouche et surtout avec une peau qui est imperceptible à la cuisson. En fait, une fois qu'il est cuit, on ne sent plus. C'est une de ses caractéristiques principales.
Il se récolte quand ?
Alors, c'est un haricot qui est un haricot aramé, qui monte, que l'on cultive sur des filets à 2 mètres de hauteur à peu près. Ouais, du moins, la végétation monte à 2 mètres de hauteur. Si on regarde bien, le haricot pourrait monter encore plus haut, mais globalement, 2 mètres de hauteur, après, c'est largement suffisant. Et on le cueille dès la fin du mois de septembre, avec le gros de la récolte qui se situe donc au mois d'octobre et qui est une récolte manuelle parce qu'il n'existe pour l'instant aucune machine permettant de mécaniser la récolte. Donc en fait, c'est un gros poste de charge, mais je dirais qui est compensé normalement par le revenu qu'on peut en tirer. Quoi, en fait,
voilà. Donc ça se récolte un petit peu comme du raisin.
Exactement. Et on a d'ailleurs, au sein de nos organisations, mis en place en fait, des groupes de cueilleurs, qui sont généralement des gens qui arrivent des vendanges et qui viennent faire la saison dans les haricots. Voilà. On est présent sur la foire expo de Villers-Cotterêts pour plusieurs raisons. Parce que Villers-Cotterêts est dans l'aire géographique et que même si on s'appelle haricot de Soissons, eh ben, le haricot, il est cultivé autour de Villers-Cotterêts. Donc on veut aussi faire sortir de l'idée des gens que même si le nom c'est Soissons, en fait, l'aire géographique, elle s'étend sur 540 communes dans le département de l'Aisne, hein, qui vont au sud les limites du département, et au nord, c'est la limite de la Thiérache. Et donc, il faut que les gens aient en tête que l'aire géographique, on peut le cultiver partout sur cette aire géographique, et pas uniquement autour de Soissons. Là, alors, donc sur le stand, là, on a toute la panoplie de nos produits finis, que ce soit du haricot sec, que ce soit du haricot conserve, que ce soit des haricots destinés à l'apéritif, que ce soit des soupes, des choses comme ça. On est là particulièrement à Villers-Cotterêts, parce qu'en fait, la communauté aussi de communes de Retz-en-Valois a financé en partie notre projet. Donc c'est un juste retour d'ascenseur vis-à-vis de cette collectivité.
Comme beaucoup d'associations, le public peut donner de l'argent.
On avait lancé une cagnotte au moment de la fête du haricot l'an dernier, qui n'a pas été un succès parce que en fait on s'y est pris un peu trop tard. Donc ce qui fait qu'elle a été assez rapidement abandonnée. On ne désespère pas de remettre en place ce type de financement. C'était des financements type Mimosa, des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, c'est abandonné. On travaille au niveau des financements beaucoup avec la ville de Soissons, la communauté d'agglo de Soissons, là, le Grand Soissons. On essaye aussi de sensibiliser toutes les communautés de communes de notre aire géographique, Villers en faisant partie. Le conseil régional des Hauts-de-France, en fait, est partie prenante dans le financement de nos projets, de notre structuration. Et là, il faut remercier quand même tous ces gens-là parce que c'est une manne financière importante.
Le but, c'est entre autres développer les innovations technologiques.
Tout à fait. On veut essayer de voir comment on peut limiter les contraintes liées à la main-d'œuvre sur cette culture-là, comment on peut éventuellement mécaniser. Et puis, on a aussi un climat qui change. Voir quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour pallier à ce réchauffement climatique. Voir des systèmes d'irrigation, des gouttes à gouttes, des choses comme ça. Est-ce qu'on imagine des ombrières pour limiter la chaleur au mois de juin, juillet? Parce que le haricot est très très sensible à la chaleur. Au-delà de 30 degrés, les fleurs sont détruites. Et puis, voir si on peut aussi décaler nos dates de semis de façon à semer plus précocement. Traditionnellement, le haricot de Soissons se semait entre aux alentours du 1er mai, 1er 10 mai. Le dicton dit à la Saint-Didier, sème tes haricots, t'en auras plein ton panier. Et ça, c'est le 23 mai. Avec le climat qu'on a, en fait, on est sous la chaleur. On le voit bien aujourd'hui, en fait, on est sous la chaleur. Et on essaye de voir si en décalant dans le temps et en semant plus précocement, si on peut pas avoir, en fait, une floraison plus précoce avant les gros coups de chaud, ce qui permettrait de sauver un peu nos récoltes. Bon.
Didier Casmiche, merci à vous.
Et surtout, goûtez nos haricots, vous verrez.
On poursuit le reportage avec Paul Rondin, directeur de la Cité internationale de la langue française du château de Villers-Cotterêts.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez préciser aux auditeurs dans quel lieu on se trouve actuellement ?
Alors là, on n'est pas très loin de la foire, on est dans la maison du projet de la Cité internationale de la langue française, c'est-à-dire c'est notre maison provisoire avant que le château n'ouvre après la fin du chantier, c'est-à-dire probablement après cet été. Et c'est une maison où on raconte l'histoire du château, mais aussi de ce qui va se passer. On essaie de se projeter un peu dans l'avenir. Et on accueille des groupes, on accueille des gens qui veulent passer pour en savoir un peu plus sur cette drôle d'histoire de ce château qui a été fermé au public pendant toute son histoire, c'est-à-dire pendant 500 ans, et qui va enfin être donné, offert au public.
Il y a déjà une date qui est prévue ?
Non, parce que vous savez, c'est en fait un château qui était très mal en point il y a encore 5 ans. Il y a eu un chantier de restauration absolument considérable. C'est le deuxième plus gros chantier après Notre-Dame. Donc il faut imaginer quand même ce que ça représente. Et les compagnons, les 250 entreprises qui ont travaillé sur ce chantier ont fait un boulot admirable. On a juste envie qu'ils le terminent bien. Et quand on le rendra au public, ce château, on souhaite qu'il soit terminé, que les gens s'en emparent, que tout soit ouvert et qu'on puisse tout découvrir sans restriction. D'où le temps que l'on prend et puis une date qu'on fixera quand on sera tout à fait certain que c'est terminé.
Derrière nous, on a des panneaux informatifs qui justement nous informent sur ce projet architectural, scénographique, pour enseigner tout simplement les futurs visiteurs de cette cité ?
Alors oui, parce que bon, il y a l'histoire du château, hein, qui est d'abord un château royal, François Ier, où il a signé cette fameuse ordonnance qui fait du français la langue de la France, du territoire. Non pas d'ailleurs pour écraser les langues régionales, mais plutôt pour laisser le latin de côté et surtout pour donner une langue commune aux justiciables et aux administrés du royaume. C'est intéressant parce que c'est un précurseur au fond. C'est-à-dire il veut donner une égalité aux citoyens. On est quand même en 1539. Hein. Bref, et ensuite ça reste un château royal pour les chasses, pour la forêt de Retz évidemment. Molière d'ailleurs a créé son Tartuffe ici quand même, devant Louis XIV et sa cour. Après la Révolution, ça devient une caserne républicaine, ça devient un asile, un refuge pour les pauvres de Paris, en gros, à l'époque où Paris envoyait ses pauvres un peu loin des yeux. Et puis une maison de retraite, enfin, dans des conditions sanitaires qui seraient intolérables aujourd'hui, et avec un château qui n'est jamais restauré, qui se délabre petit à petit. Aujourd'hui, il est restauré. Comme on a pu, c'est-à-dire qu'il a été très abîmé par le temps, 200 ans, hein, sans être jamais entretenu. Ce qui est formidable, c'est qu'on sauve un logis royal de la Renaissance, mais en même temps, on en fait un équipement culturel très contemporain. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement du patrimoine, ça n'est pas seulement un monument que les gens vont pouvoir visiter, c'est cela aussi. Il y a deux escaliers royaux magnifiques, il y a une chapelle à voir qui est extraordinaire, mais c'est un bâtiment qui a été pensé pour être opérationnel, pour être actif, pour accueillir des spectacles, des séminaires, des rencontres, tout ce qu'on veut qui fait la vie et qui sera ouvert en permanence. Il y a un auditorium qui est vraiment comme une salle de spectacle, c'est-à-dire dans l'ancien jeu de paume, attenant au logis royal, une salle qui pourra accueillir 250 personnes et où on pourra faire des concerts, des spectacles de théâtre, des conférences, vraiment tout ce qu'on veut. En gros, le projet, c'est avoir comme dénominateur commun la langue française, la francophonie, les cultures francophones, et puis dire à tous ceux qui rient en français, qui chantonnent en français, qui lisent le français ou qui aiment simplement les cultures francophones, bah, que c'est une maison pour eux, qu'ils peuvent y trouver ce qu'ils veulent en fait. Parce qu'on peut venir aussi, on pourra venir aussi dans cette cité si on n'a rien à y faire. C'est un endroit qui sera toujours ouvert. Vous pourrez traverser de la ville à la forêt, librement, dans les deux sens, et vous pourrez vous asseoir dans la cour des offices ou la cour du jeu de paume, aller voir l'escalier du roi, tout ça en accès libre. Ça doit vraiment être un lieu vivant, et nous espérons que la prochaine foire aura lieu en partie dans la cour du château, puisque c'est vraiment ça qui est important, c'est un lieu pour les Cotrésiens et pour ce territoire, pour y faire beaucoup de choses. Et vous voyez, dans les stands de la foire, il y a vraiment des artisans, qu'on pourrait dire des artisans d'art, qui auraient tout à fait leur place à montrer ce qu'ils font, leur savoir-faire à l'intérieur de ce château.
Lieu également où on peut lire et travailler.
Oui, c'est un lieu de, vous avez raison de le dire et merci. C'est un lieu de résidence, c'est-à-dire tout le deuxième étage est un lieu où on pourra accueillir des résidents à la fois artistes, chercheurs, pourquoi pas entrepreneurs ou artisans. Là encore, à partir du moment où le dénominateur commun sera les langues, l'expression autour du français, sachant qu'on prend le français comme une langue en évolution constante, élastique, avec laquelle il faut jouer, qui s'élargit, qui s'agrandit en permanence, qui s'augmente en permanence. Et c'est ça qui en fait sa force. On n'est pas du tout dans un endroit de protection, de sauvetage, vous voyez. On ne résiste pas, on insiste sur le plaisir qui est lié à notre langue, qui que l'on soit, une fois encore, qu'on la parle dès l'enfance, ou qu'on l'apprenne, ou qu'on ait envie de l'apprendre.
Le festival Parole aura peut-être également celle de noblesse à faire ici, dans ce château.
Ah bah c'est évident. Nous, on est extrêmement heureux de ce qui s'est passé, puisque ce festival Parole, il a précédé l'ouverture de la cité. Enfin, c'est du bonheur que des élus, des responsables politiques, les habitants de ce territoire décident eux-mêmes d'accueillir un grand projet culturel en inventant ce festival, qui a eu un beau succès. Et puis, vraiment, vous aviez toute la diversité dont on rêve. Oxmo Puccino qui dit du Proust, qui dit mieux. Donc oui, le festival Parole aura sa place absolument dans la cité lors de la prochaine édition. Et il le faut.
Paul Rondin, merci à vous pour ces informations. Et on invite les auditeurs à venir ici, dans cette maison, pour apprendre des choses et vous rencontrer tout simplement.
Quand vous voulez.
La seconde partie du reportage consacrée à la troisième édition de la foire Expo Reste en Valois est terminée. Elle avait eu lieu dans la commune de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, le samedi 3 juin dernier. Merci de votre écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.